Et sur Radio Shalom, comme tous les jeudis, on retrouve Sylvain Attal. Bonsoir Sylvain.
Bonsoir Pierre, bonsoir à tous.
Alors, comme chaque semaine, on tente avec vous de comprendre comment va le monde. Chaque semaine, eh bien, on a des surprises et on va revenir, bien évidemment, sur cette stupéfiante journée d'hier, 6 janvier, à Washington, au cours de laquelle des supporters de Trump ont envahi le Capitole et interrompu l'examen des résultats de l'élection présidentielle.
Oui, absolument. Et puis, il faut d'abord appeler les choses par leur nom. Il s'agissait bien d'un acte d'insurrection incité par Donald Trump lui-même au début de la journée, qui a tout d'un comportement fasciste. Fascisme d'opérette, peut-être, sans doute, car les émeutiers étaient totalement désorganisés, mais fascisme quand même, car ces militants chauffés à blanc, sûrs de leurs faits, ont fait usage de la violence contre un lieu, une institution sacrée, sacrée dans toute démocratie d'ailleurs, mais encore plus aux États-Unis, où Dieu n'est jamais très loin de la politique. On peut donc parler d'une désacralisation du temple de la démocratie. Ceux qui ont été arrêtés risquent d'ailleurs 20 ans de prison pour acte de sédition. On ne peut pas réellement parler de coup d'État, mais ces émeutiers en treillis de combat ont quand même réussi à interrompre le processus normal de la démocratie pendant quelques heures. Ils n'étaient pas, heureusement, armés, mais c'est peut-être partie remise. Il reste encore 2 semaines avant l'inauguration de Biden. Jusqu'au bout, Trump les aura soutenus, même quand il a dû, sous la pression de son entourage, qui était de plus en plus effaré, leur demander de rentrer chez eux. Ce qui est particulièrement troublant aussi, c'est la passivité des forces de police, qui étaient en trop petit nombre, alors que des incidents étaient prévus, annoncés, qui ont finalement laissé passer les insurgés. Ahurissant d'ailleurs, quand on connaît les États-Unis, et on ne peut pas faire le moindre chahut sur la voie publique sans être certain de se retrouver en quelques minutes menotté à l'arrière d'une voiture de police.
Alors, j'ai envie de vous poser cette question. Est-ce que Donald Trump est devenu fou ?
Ah, je me la posais aussi, très franchement, et avec sans doute quelques autres en voyant ces images. Sur CNN, hier soir, le correspondant à la Maison-Blanche de la chaîne rapportait qu'un proche du président lui avait confié qu'il pensait qu'il avait perdu la tête. Et durant 4 ans, nombreux sont ses collaborateurs qui ont démissionné sur un pareil constat. C'est vrai que de ce point de vue, ce qui s'est passé hier n'est pas vraiment surprenant. Ici, ce sont les derniers affidés qui tardivement font finalement le même constat. Les États-Unis ont bien élu, il y a 4 ans, un homme profondément déséquilibré. Trump était violent depuis le début, mais c'est surtout depuis sa défaite de novembre 2020 qu'il a versé dans la paranoïa, il n'y a pas d'autre mot. Par ses mensonges, il a mis l'huile sur le feu de ses partisans et aussi convaincu que son élection a été volée.
Donc on peut dire que Trump s'est lui-même tiré une balle dans le pied.
On peut se demander en tout cas s'il n'a pas compromis ses chances de se présenter à nouveau dans 4 ans, mais c'est une grande interrogation pour la suite. Est-ce que cet événement historique est la fin de quelque chose, c'est-à-dire en fait le dernier souffle de la bête, si vous voulez, ou au contraire le début de quelque chose, l'organisation derrière Trump d'une tendance de type fasciste, c'est-à-dire qui utilise le mensonge, la propagande, la violence pour arriver à ses fins? Trump est peut-être encore dans le paysage pour longtemps. Et cette question devra être réglée au sein du parti dont il a virtuellement pris le contrôle il y a 4 ans.
Alors, est-ce que vous pensez que les insurgés ne sont pas seulement des factieux qui veulent renverser le résultat d'une élection qu'ils ont perdue, en fait ?
Oui, je pense qu'on n'est pas exactement dans ce schéma. D'abord parce qu'ils ne sont pas allés jusqu'au bout, comme s'ils pensaient être d'ailleurs eux les vrais démocrates. On voit bien qu'ils n'étaient pas vraiment organisés. Ces gens ne contestent pas d'ailleurs les résultats, ils contestent les faits qui pour eux n'en sont pas. Quand on dit que Trump a menti en prétendant que cette élection était frauduleuse, ce n'est pas un propos partisan et il faut rappeler quelques évidences car Trump a encore beaucoup d'admirateurs et je suis sûr qu'il y en a encore parmi les auditeurs de Radio Shalom. Donc ses avocats ont usé de tous les recours prévus en cas de contestation et Dieu sait s'il y en a aux États-Unis, devant les tribunaux d'abord, jusqu'à la Cour suprême fédérale qui est pourtant dominée par les conservateurs et encore récemment Trump avait nommé la juge Barrett, qui était vraiment très conservatrice. Mais tous ces juges, quel que soit leur niveau, se sont comportés non pas en partisans, mais en juristes. Ils ont demandé à chaque fois aux plaignants s'ils avaient des preuves de ces fraudes, et à chaque fois, les avocats de Trump ont dû reconnaître qu'ils n'en avaient pas, contrairement à ce qu'ils affirmaient en même temps sur les réseaux sociaux. Puis, devant les gouverneurs et les assemblées des États, souvent contrôlées par le Parti républicain d'ailleurs, qui ont en premier lieu examiné les résultats et n'ont rien trouvé à y redire. Et enfin, devant le Congrès, où quelques dizaines d'élus républicains se sont obstinés hier à contester les résultats, même après ces violences, et alors que leurs collègues de tous bords les appelaient à faire preuve d'unité, avec de pauvres arguments, c'est-à-dire les seuls qui leur restaient, c'est-à-dire cette histoire de vote par correspondance, utilisée massivement en raison de la pandémie et qui aurait généré des injustices de traitement entre ceux qui ont voté en ligne ou à la poste et ceux qui se sont déplacés. Mais cette possibilité n'était pas réservée aux seuls démocrates. Et si, en effet, davantage de démocrates y ont eu recours, c'est vrai, c'est parce que Trump lui-même avait demandé à ses soutiens de ne pas l'utiliser. Bref, du début à la fin, ce sont les mensonges propagés par Trump, Giuliani, quelques autres, qui ont provoqué ce chaos. Mais il s'est quand même trouvé, cette nuit, la nuit dernière, près de 2/3 des représentants républicains pour voter en faveur du rejet du résultat dans au moins un État sur des motifs fallacieux. Ces gens-là pensent qu'ils doivent cela à leurs électeurs, et surtout à la suite de leur carrière politique. Ils ont parfaitement noté que Trump avait quand même réuni sur son nom plus de 60 millions de voix. Trump a donc encore certainement la possibilité de punir ceux dont il pense qu'ils lui ont manqué. Mais que se serait-il passé s'ils avaient été plus nombreux ? Voilà un vrai sujet d'inquiétude.
Est-ce que ce qui s'est passé, Sylvain Attal, relève d'une faiblesse, une maladie de la démocratie américaine ?
J'entends un peu dire ça, je ne le crois pas, c'est peut-être paradoxal. Les médias américains et une partie de l'opinion étaient sous le choc hier. Comment le système qui se prétend la plus grande démocratie du monde, qui donne des leçons de démocratie au Moyen-Orient, en Asie, en Europe de l'Est, peut-il en arriver là ? Il y a des choses difficiles à comprendre pour nous, comme par exemple le fait qu'on peut, aux États-Unis, remporter le vote populaire à l'élection présidentielle sans être déclaré gagnant, ce qui est arrivé à Bush en 2000 et à Trump en 2016. Mais aussi, suprême bizarrerie quand même, laisser à une enceinte partisane, le Congrès, le soin de valider une élection en dernier recours. Chez nous, en France, c'est le Conseil constitutionnel qui se prononce sur la régularité juridique d'une élection, ce qui est plus logique que de confier ce soin à des politiciens, certes des politiciens élus, mais justement dépendant de la pression de l'opinion publique, en tout cas de leurs électeurs. Mais on le voit, au total, la démocratie américaine a bien résisté, a bien fonctionné. Mike Pence, le vice-président, s'est comporté en démocrate. Il a résisté aux pressions du président auquel il s'est virtuellement substitué d'ailleurs en organisant la défense du Capitole, puisque Trump ne s'occupe en réalité plus de rien depuis des mois. Et force est donc restée à la loi, la démocratie a prévalu. Trump a essayé de corrompre le système comme certains dirigeants démocratiquement élus ont réussi à le faire ailleurs, mais il a échoué. La justice, la presse, le Parlement aussi finalement sont restés debout.
Alors est-ce qu'il y a une leçon à tirer pour la démocratie en général ?
Absolument, et je crois qu'on aurait tort de voir dans ce qui s'est passé hier à Washington, aux États-Unis, une sortie de route purement américaine. Au fond, ce qui est de plus en plus clair, c'est que la foi dans les vertus de la démocratie recule de manière inquiétante partout dans le monde libre, ce qu'on appelle le monde libre. C'est dû au succès du conspirationnisme sur lequel s'appuient les dirigeants populistes. Ils sont souvent menteurs, mais ils sont aussi charismatiques et ils utilisent les réseaux sociaux pour propager leur réalité alternative. Et ça marche. Ils créent des bulles dans lesquelles des masses manipulées ne sortent plus et peuvent, on l'a vu hier, être amenées à avoir recours à la violence pour remédier à l'injustice dont ils sont convaincus d'être victimes. J'étais sidéré par les images de CNN, mais aussi par le fait qu'en France, des polémistes écrivaient en même temps sur Twitter « Printemps américain, renouveau démocratique », ils saluaient les citoyens, pardonnez-moi l'expression, qui avaient des couilles, tout cela liké des milliers de fois. Là aussi, il y a dans cette invocation vulgaire de la vitalité, même de la virilité, quelque chose qui est constitutif du fascisme. Je rappelle aussi que jusqu'à ce jour, quelqu'un comme Marine Le Pen se refuse à reconnaître la victoire de Biden. Et donc je me disais qu'une telle chose pouvait donc parfaitement arriver ici. Je ne suis pas sûr que nous ayons en plus dans notre constitution autant de garde-fous que les Américains contre les abus de pouvoir. Et dans ce monde qui a inventé l'expression « fait alternatif » pour parler tout simplement de mensonges, de manipulation, nous ne sommes décidément à l'abri de rien.
Sylvain Attal, chaque semaine sur Radio Shalom pour tenter de comprendre comment va le monde. Merci Sylvain, bonsoir.
Merci à tous, bonsoir Pierre.